Et qu'est-ce que, dans Kurlianski, quand même une personnalité très différente de ce qu'on peut rencontrer. C'est quelqu'un qui a, je pense, une certaine minutie dans la mise en place du travail, dans cette mode d'écriture et d'expression musicale. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans sa personnalité, en fait?
Alors Kurlianski, pour être honnête, je l'ai rencontré la première fois à Godéamus en Hollande, où il présentait une pièce d'or qui était très étrange, un peu abstraite. Je lui avais dit, présentez-vous à Royaumont, voilà, puis mais pas, enfin, il faut passer quand même la sélection. Finalement, je l'avais pris, mais il ne s'était pas présenté tout de suite, c'était passé quelques années. Et puis, par la suite, je lui ai passé des commandes de pièces qui étaient assez radicalement minimalistes. Ils m'ont laissé un peu sur ma faim, un peu. Et puis après, j'ai compris en fait vers quoi il s'orientait, vers une sorte de. Et qui est une chose finalement assez rare en musique, qui est une sorte. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends, peut-être que je me trompe complètement, mais une sorte de. Conception. Enfin, ça fait répétition, mais conception conceptuelle de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un artiste conceptuel qui s'exprime par les sons. The Riot of Spring, l'émeute du printemps qu'il a créé l'année dernière lors de la Triennale de la Roure et qui lui a un peu boosté sa carrière, typiquement ça, finalement. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif, c'est plus une œuvre. Un dispositif dans lequel l'orchestre joue des cordes à vide, une tenue, et à chaque fois que le chef fait un signe, en fait, à un musicien, le musicien se lève, prend son instrument, va dans la salle, donne l'instrument à un membre du public et lui apprend comment jouer cette note. Et peu à peu, l'orchestre se désagrège et c'est le public dans la salle qui va jouer l'œuvre. L'effet est assez étonnant. Musicalement, il n'y a rien. Sauf cette espèce de dégradation quand même qui vient du fait que ce ne sont plus des professionnels qui jouent la musique, mais des amateurs. Et on voit, parce que ça a été filmé bien évidemment, on voit l'espèce de fascination qu'ont les gens tout d'un coup d'être les artisans eux-mêmes du son et de l'œuvre musicale. Tant et si bien d'ailleurs que je crois qu'ils ont dû bisser, enfin reproduire le concert le lendemain, et que beaucoup de gens sont venus avec leurs propres instruments, les petits-enfants avec leurs violons, etc., pour participer. Donc il y avait cet aspect collaboratif. Bon, typiquement pour moi, c'est une œuvre conceptuelle. Ça, c'est l'idée a primé sur la matière sonore, finalement. La matière sonore est là, mais c'est le concept qui compte.
Et donc, quand vous observez l'évolution de la musique contemporaine, vous avez une position un peu de proue, vous pouvez regarder ce qui s'y passe dans des jeux de personnes qui étaient déjà très jeunes. Quelle est l'impression qu'il se dégage pour les prochaines années? Est-ce que vous avez l'impression, Kurlianski parle dans un interview que nous avions fait, d'individualité de plus en plus forte chez les compositeurs, qu'on ne trouve plus presque une notion d'école?
Non, mais ça fait. Je pense que quand j'ai commencé en 83, on tenait déjà ce discours-là avec raison. Je pense que les écoles, elles ont volé en éclats à la fin des années 60, au début des années 70. Ce qu'on observe, ce sont éventuellement... C'est très difficile de dire comment évoluent les choses, parce qu'il y a tout un spectre très, très divers, très varié, qui va, disons, de la néotonalité à l'expérimentation la plus radicale. On va prendre l'Allemagne. Et il y a une internationalité, que j'ai dit tout à l'heure, enfin une mondialisation des forces réelles. Et en même temps... On a vu réapparaître quand même des composantes nationales. Ce qui n'existait pas après-guerre où on composait à Paris et à Berlin exactement de la même manière. Aujourd'hui, vous proposez en France un concert de musique allemande, mais vous vous faites tuer. Moi, j'ai vu à Darmstadt des concerts de musique française de la meilleure facture, un chef-d'œuvre de Tristan Murailles siffler. C'est quoi cette jolie musique trop harmonique, trop belle, qui fait plaisir, etc. Les Allemands détestent ça. Et les Français, quand ils entendent du Larenma, des choses comme ça, ont le plus grand mal. Donc, et c'est vrai aussi avec d'autres pays, par exemple. Pourquoi il y a aujourd'hui, et Dimitri Kurlianski en est un des représentants, et même un des chefs de file, ce mouvement absolument radical des compositeurs russes, qui élimine la mélodie, l'harmonie, le rythme, il reste presque plus rien, il reste de l'os à peine. Bon, moi je pense qu'il rejette un peu le grand lyrisme de Gubaidulina ou de Schnittke à la limite du kitsch. Mais c'est quand même une caractéristique assez forte de la musique des Russes, même s'ils ne vivent pas en Russie, ils beaucoup vivent en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc on voit comme ça apparaître des composantes nationales. Il n'y a pas plus vraiment d'unité. Alors il y a des mouvements, on a beaucoup parlé du saturationnisme il y a quelques années. À la fois j'ai beaucoup d'admiration pour certains des compositeurs de ce mouvement, comme Raphaël Sendo qui est venu à Royaumont, que j'ai beaucoup aidé, qui est pour moi vraiment un des grands en devenir, ou déjà devenu je pense même, de la musique. Mais j'ai plus de doutes sur la pertinence de ou la force du concept de saturation. Le dernier grand concept, je pense, en musique a été le spectralisme, qui a vraiment été quelque chose qui intellectuellement était fort et qui a conduit, dont la pensée finalement est maintenant acceptée par tous, ce qui fait que voilà, il n'y a plus personne ne compose sans penser justement à la répartition des harmoniques et à comment ça sonne en fait, hein, qui était le grand oubli du surréalisme. Donc il n'y aura plus d'école, enfin je vois pas ça surgir. Par contre, à une époque, je me disais, c'est formidable, voilà, j'ai des musiciens qui viennent de Colombie, j'ai des musiciens qui viennent d'Asie centrale, du Tadjikistan, du Kirghizistan, ce que je sais. Ces pays-là, ils ont des traditions des traditions musicales très très fortes encore. D'ailleurs, souvent, ces compositeurs, ce sont les enfants, les petits-enfants d'anciens grands compositeurs de musique traditionnelle. Ils vont apporter quelque chose, ils vont apporter un sang neuf dans la musique contemporaine. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. En fait, ils sont venus chercher en Occident, en Europe ou aux États-Unis, de quoi réussir aux concours internationaux, c'est-à-dire effectivement parfois écrire comme Brian Ferneyhough, c'est-à-dire pouvoir rendre des jolis papiers pleins de notes très complexes. Ça, c'est un peu une déception. Donc il y a une espèce d'uniformisation et certaines manières, la langue de la musique contemporaine s'est à la fois mondialisée et européanisée, on peut dire, même si c'est aussi vrai pour les États-Unis. C'est unifié d'une certaine manière, bien qu'il y ait des grandes divergences de goût parmi les populations, entre l'Allemagne, la France, l'Italie, c'est vraiment très très différent. Voilà. Je pense qu'à Royaumont aussi, les jeunes compositeurs qui viennent, parce que quand je fais la sélection, je suis très attentif au fait de ne pas prendre trop de gens qui viennent de même pays ou qui sont passés par les mêmes professeurs, parce qu'ils se connaissent déjà, c'est pas la peine de continuer ensemble. Ils apprennent beaucoup les uns des autres. Découvrir qu'on peut faire des choses vraiment très très différentes de ce qu'ils font, de ce qu'on leur a appris à faire. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de parcours. Non. Quant à dire ce que ça va devenir, j'en sais strictement rien. Par contre, je commence à m'inquiéter d'une chose. C'est la longueur interminable de cette période qu'on appelle musique contemporaine, qui donc aujourd'hui a 70 ans. 70 ans dans l'histoire de la musique, c'est un intervalle immense. Alors on peut tricher un peu, mais c'est plus que ce qui sépare la mort de Haydn de la naissance de Schoenberg et de Ives. Voilà ce que c'est 70 ans. On a le temps de changer deux fois l'histoire de la musique. Or là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de fondamentalement différent depuis 45 à nos jours? Je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Il y a une sorte de stagnation de cette musique contemporaine qu'on pense toujours évoluer si vite au rythme de la technologie, etc. Or, je vois plutôt que ça piétine.